démocratie.
La démocratie en question.
Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs dans notre émission La démocratie en question sur Radio Camille. Dans le cadre d'une sortie scolaire, nos classes de première AGGSP et SES se sont rendues sur Paris le 25 mars 2025. En amont de cette sortie, nous avons reçu Sacha Houllier, député de la Vienne, ainsi que Bruno Belin, sénateur de la Vienne, pour nous présenter leurs fonctions. Sur place, plusieurs institutions ont été visitées, comme l'Assemblée nationale, le Sénat, ou encore le Conseil économique, social et environnemental. D'autre part, des visites ont été réalisées au musée d'Orsay par exemple. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'exposition « L'intime de la chambre aux réseaux sociaux » du musée des arts décoratifs. Nous nous sommes penchés sur la question du genre dans l'intimité, sur les différences entre les femmes et les hommes et leurs évolutions au fil du temps. Pour cela, nous avons analysé et relevé plusieurs sources, comme des photographies, des peintures, des objets divers, montrant la pluralité des femmes, des formes d'intimité. L'exposition montre alors comment l'intimité s'est imposée puis s'est profondément modifiée. L'émission abordera la place des femmes du 19e siècle à aujourd'hui, le plaisir personnel, la beauté intime, puis la communauté LGBT+. Aujourd'hui, nous recevons Émilie, notre experte, et Eva, notre chroniqueuse, pour nous présenter le sujet. Nous allons justement débuter l'émission par la chronique de Eva.
Merci Léa. L'œuvre Bona, Charlotteville est une photographie de l'artiste sud-africaine Zanel Muoli, connue pour son travail engagé autour des identités noires et queer. Dans cette image, en noir et blanc, on voit une femme noire allongée sur un lit. Elle tient un miroir rond dans lequel se reflète son visage. Son corps, vu de dos, se fond avec les draps et les décors dans une atmosphère très intime. Cette œuvre entre en résonance avec le thème de la femme et l'intime. Au XIXe siècle, avec l'apparition de la bourgeoisie, la femme est associée à l'espace domestique. Des artistes comme Édouard Villers la représentent dans son intérieur, souvent dans des scènes calmes et silencieuses. Mais cette intimité est imposée, elle reflète une place assignée par la société. Dans la photo de Muoli, au contraire, l'intimité devient un espace de liberté et de pouvoir. La femme ne subit pas le regard, elle se regarde elle-même. C'est une manière de se réapproprier son image, son corps, son histoire. L'intimité n'est plus une prison, mais un lieu d'affirmation de soi.
Mais qu'est-ce que cette œuvre nous dit de l'évolution du regard porté sur les femmes dans l'art ?
Elle montre que ce regard a changé. Avant, c'était souvent un regard masculin extérieur qui plaçait la femme dans son rôle bien défini. Aujourd'hui, des artistes comme Muoli permettent aux femmes de se présenter elles-mêmes.
Comment l'œuvre Bona, Charlotteville de Zanel Muoli, se démarque de l'image traditionnelle de la femme dans l'art?
L'œuvre Bona, Charlotteville de Zanel Muoli redéfinit l'intimité en lui attribuant une dimension de pouvoir. Contrairement à l'image traditionnelle de la femme dans l'art qui détient un rôle passif, dans cette photographie, la femme, en se regardant dans le miroir, prend le contrôle de son image.
En quoi l'image de la femme dans Bona, Charlotteville de Zanel Muoli, diffère-t-elle de l'idéal bourgeois du 19e siècle ?
L'image de la femme dans Bona, Charlotteville de Zanel Muoli est différente de l'idéal bourgeois du 19e siècle, où la femme a un rôle passif dans l'espace domestique, souvent distante, dans des scènes de calme et de silence. Dans l'œuvre de Muoli, la femme est dans son intimité.
Et Émilie, pouvez-vous nous éclairer sur comment était représentée la sexualité, un élément principal de l'intimité, à cette époque?
Alors pour vous répondre, je vais m'appuyer sur le tableau de Jean-Honoré Fragonard, intitulé Le Verrou. Il présente une scène ambiguë qui peut susciter le questionnement, est-ce les prémices d'une scène libertine consentie ou un rapport sexuel imposé? Cette œuvre montre donc que la question du consentement ne date pas seulement d'aujourd'hui. Nous pouvons également aborder le sujet du plaisir féminin. En effet, à cette époque, la maladie de l'hystérie était très répandue chez les femmes. Cette maladie était en fait reliée aux émotions des femmes, anxiété, irritabilité, insomnie, etc. Selon la médecine occidentale, elle serait attribuée à un déséquilibre de l'utérus. Des massages génitaux sont donc prescrits pour provoquer une crise d'hystérie appelée aujourd'hui orgasme. Cette pratique existe depuis l'Antiquité et est reprise par les médecins européens. Mais ce travail a été long et fatigant. Joseph Mortimer Granville a donc inventé le premier vibrateur électrique en 1880 pour soulager les douleurs musculaires. Cet objet n'était pas destiné à être utilisé pour le traitement de l'hystérie, mais d'autres médecins ont détourné son invention pour accélérer le traitement des femmes et ainsi fournir moins d'efforts manuels. En 1900, avec les avancées technologiques, ces vibros sont vendus aux particuliers sous couvert du bien-être et de la relaxation. Mais avec l'essor du cinéma et l'apparition des magazines érotiques, ces objets ont été associés au plaisir sexuel entre les années 1920 et 1930.
Et que pouvez-vous dire à propos des rituels de beauté et de l'image qu'ils renvoient en tant qu'hommes et en tant que femmes?
Alors tout d'abord, les hommes comme les femmes se maquillaient à l'époque. comme en Égypte antique où hommes et femmes appliquaient du colle noir sous leurs yeux. En France, au XVIIIe siècle également, les nobles comme Louis XVI portaient du maquillage blanc, du rouge à lèvres et de la poudre pour refléter leur statut social. Le fait de se maquiller pour un homme était alors mélioratif, mais aujourd'hui cela est devenu péjoratif. En effet, certains essaient de démocratiser, d'intégrer cette pratique chez les hommes, qui était à l'époque normalisée, sur les réseaux sociaux ou dans les publicités telles que NYX, qui met en scène Bilal Hassani, auteur, compositeur et interprète homosexuel français, pour mettre en avant les discriminations dues à son maquillage. On le voit dans un photomaton en train d'essayer de prendre une photo portant du maquillage, mais la machine lui indique qu'il y a une erreur. Il va alors se maquiller jusqu'à ce que celle-ci valide sa photo, et donc que l'on peut interpréter comme une acceptation de la société lorsqu'il est démaquillé. Les parfums sont également un rituel de beauté genré, qui permet d'affirmer sa personnalité que l'on peut aborder. Cette fois-ci, cette pratique est démocratisée chez les hommes comme chez les femmes. Cependant, la parfumerie féminine est beaucoup plus ancienne. En effet, le premier parfum féminin est l'eau de Hongrie, dont l'origine se trouve peut-être entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Chez l'homme, c'est l'année 1934 qui marque le début de la parfumerie masculine au XXe siècle. Mais il faudra attendre 1960 pour qu'elle se démocratise, avec notamment la sortie du parfum brut de Fabergé. Les parfums incluent donc les deux sexes, mais sont genrés avec des caractéristiques bien distinctes qui permettent de créer une personnalité propre au genre. En effet, chez les hommes, on retrouve des parfums dominés par des notes boisées, épicées et curées, avec des senteurs fraîches et puissantes, comme avec 1 million de Paco Rabanne de 2008, qui est le symbole de l'excès, de l'opulence et de la séduction. Alors que chez les femmes, on retrouve des notes plus florales, fruitées et sucrées, avec des senteurs douces, comme avec le parfum J'adore de Christian Dior de 1999, qui incarne le retour d'une féminité triomphante, affirmée et hiératique.
Merci beaucoup à vous, Émilie et Eva, de nous avoir éclairé sur ce sujet si important dans notre société et pourtant peu abordé. Il est temps de se dire au revoir et à bientôt sur Radio Camille pour de nouvelles chroniques.
Démocratie.
La démocratie en question.